Vous écoutez
RMC. RMC, midi 15h. Estelle Midi.
Estelle Denis.
C'est la dernière partie d'Estelle Midi sur RMC, RMC Story. Nous sommes ensemble jusqu'à 15h avec Emmanuel Dancourt, Pierre Rondeau, Jean-Philippe Doux et Charles Magnin. On parle cuisine dans un instant. Est-ce que vous faites confiance aux influenceurs pour suivre des recettes ou encore pour des critiques de restaurants? Eh bien écoutez, on vous attend au 32-16 et sur le WhatsApp.
Oui, au 06-12-424-424. Bon, tout le monde n'est pas sensible hein, aux influenceurs food. J'ai Étienne qui nous dit mon influenceur en cuisine s'appelle Livre de Recettes, et Greg qui nous dit
il s'écrit des livres aussi maintenant.
Je ne suis pas les influenceurs, je suis les recettes de Marmiton. Voilà ce que nous raconte Greg sur le WhatsApp. Vous témoignez vous aussi au 06 12 424 424.
Enfin, les recettes de Marmiton, c'est des gens en fait qui envoient leurs recettes, donc c'est quelque part aussi des influenceurs.
C'est aussi de l'influence, c'est vrai.
Il y aura bien sûr le tu préfères. 14h25, on parle de foot. Tu préfères regarder un match seul ou avec des amis? RMC Conso Charlotte Méritant. 14h30, on vous dira, et ça c'est très important, comment faire baisser la température de votre logement. Peut-être que vous n'arrivez pas à ressentir la fin de la canicule qui fait encore très chaud chez vous. On vous donnera des astuces et on terminera, Charles, avec les immanquables.
On parlera de cette amende qui fait beaucoup parler, 150 euros pour avoir transporté une télé dans le métro. Est-ce que c'est justifié? On parlera aussi, tiens, du ministère de la Culture qui veut franciser les mots du basket. Une circulaire très officielle publiée hier pour remplacer money time par minute en or ou trash talking par provocation verbale.
Excusez-moi, mais combien de gens ont travaillé là-dessus?
On pourra encore jouer. Je ne sais, j'ai pas le nombre de gens, mais c'est
on
très difficile.
J'ai vraiment envie d'en débattre maintenant.
Merci Charles de nous avoir tendu là comme ça.
On évacuera toute cette tension.
Ah bah oui, on va bien évacuer là.
RMC Estelle Midi.
14h06 sur RMC, on poursuit Estelle Midi avec la tendance du jour et c'est celle des recettes de cuisine sur Instagram. Alors évidemment, le phénomène, n'est pas nouveau, mais il n'a jamais été aussi suivi. L'an dernier, 4 Français sur 10 ont réalisé des recettes d'influenceurs. Alors vous connaissez peut-être Loulou Kitchen, Théo Lignani qui sera avec nous dans un instant, ou encore Airfryer Lovely Box. Bon, ça c'est un compte que je suis. Non, je suis ce compte.
C'est le compte caché d'Estelle.
Non, les recettes sont hyper bien. Les vidéos cartonnent, même chose pour les influenceurs qui s'improvisent guide gastronomique, qu'on se le dise aujourd'hui. Charles, la cuisine, ça se passe sur les réseaux.
Oui, plus de la moitié des Français déclarent être influencés dans au moins un aspect de leurs habitudes alimentaires parce qu'ils trouvent sur les réseaux. Le domaine le plus touché concerne donc la cuisine. 44% affirment que les plateformes influencent les recettes qu'ils préparent à la maison. Première motivation, manger plus sainement grâce aux recettes qu'on découvre sur les réseaux, mais aussi le goût de la nouveauté. 28% des Français ont déjà testé de nouveaux ingrédients, de nouvelles recettes qu'ils ne connaissaient pas avant de les découvrir sur les réseaux. Autre marché aussi, celui de ce qu'on appelle les influenceurs food, qui vont vous vanter tel ou tel restaurant. Le principe est souvent le même, l'influenceur est invité à manger gratuitement, éventuellement avec ses amis, en échange d'une vidéo de promo du restaurant sur ses réseaux. Un marché tellement lucratif et développé qu'il existe même désormais des plateformes de mise en relation entre influenceurs et restaurateurs pour que des restaurateurs puissent contacter des influenceurs qui viennent faire leur promotion.
Alors, recettes, critiques, faites-vous confiance aux influenceurs, Jean-Philippe Doux?
Alors, pour les restaurants, pas du tout, parce que Charles l'a dit, c'est promo. Il y a une relation mercantile derrière tout ça. Moi, par rapport pour les restos, je préfère regarder des sites comme The Fork, par exemple, où là, ce sont des avis certifiés de gens qui ont dû manger pour pouvoir donner leur avis. Après, pour les recettes, personnellement, j'évite de regarder les recettes sur les réseaux sociaux, parce que j'ai pas envie que l'algorithme me réserve des recettes toutes les 2 minutes. Bah oui, j'imagine. Donc j'ai pas envie d'être sous cette marée de recettes. Mais mon fils qui a 11 ans, Charlie, lui est déjà influencé sur les réseaux sociaux par ça. Et ça donne une sorte de créativité. J'étais encore samedi dans une grande surface à chercher du lait concentré sucré que j'avais pas chez moi évidemment. De la brunoise, je savais pas ce que c'était que la brunoise. Il est en train de m'appeler. Non, c'est pas le mot. La brunoise, je savais pas ce que c'était qu'une brunoise. Donc j'ai pris du
sucre. On l'a fait soi-même.
Bon,
Ah ben je sais. Si c'est pas ce que c'est.
Mais je sais pas. Donc bon, enfin, du coup.
Bah, c'est des carottes et du céleri. Et c'est pour faire une sauce bolognaise, par exemple. Vous mettez avant.
Ah ben là, c'était un peu de sucre. Donc je sais pas trop ce que c'est. Mais bon, en tout cas, ça élargit les horizons. Ça permet de diversifier les recettes. Et on suit des recettes qui sont simples a priori. Là, il est sur un dossier pour faire une glace vanille chocolat. Donc voilà. Donc pourquoi pas. C'est de l'inspiration.
Je vous ai fait un taboulé la dernière fois. Alors, vous êtes venu à la maison. Et Jean-Philippe me dit j'ai envie d'un truc frais et je lui dis bah attends on va regarder. Alors, j'avais quelques, il me restait de la semoule, des concombres et des tomates dans mon frigo. J'avais de la menthe sur mon balcon et donc j'ai regardé comme ça et puis j'ai trouvé une recette. C'est Toto Cuisto et j'ai fait un super taboulé.
Et ça m'a épaté.
Voilà.
Et ça m'a épaté.
J'étais épaté. Oui. J'ai fait ça en 20 minutes là, bam bam bam.
Et formidable. Je me dis qu'en effet si Estelle peut le faire comme ça.
Bah, dis donc.
Oui non mais.
Merci.
Ça peut être dénigrant.
Non mais ce sera d'ailleurs le nouveau nom de l'émission.
Cette fierté-là, je trouve très intéressant que les gens aient la fierté de le faire soi-même.
Sachez que j'ai une bibliothèque sur Instagram, j'enregistre mes recettes et donc je vous ai montré ça à la pause. Ouais. Et j'ai des petits intercalaires, voilà maintenant, avec mes recettes. Donc j'ai ma salade, mes recettes air fryer, mes pâtes, la malbouffe, j'adore ça quand même, des recettes asiatiques, j'ai tout. J'ai une véritable bibliothèque de vidéos Instagram avec des recettes.
Et ce sont des tutos, donc c'est facile à suivre, plus facile peut-être qu'un livre de cuisine écrit.
Alors, je sais que vous adorez la cuisine, Emmanuel Dancourt, vous en parlez souvent. Est-ce que vous êtes cuisine à l'ancienne avec des vieux livres, des grimoires de cuisine ou est-ce que vous avez quand même une petite touche de modernité?
Ben, moi aussi, j'ai ma bibliothèque et c'est effectivement une bonne dizaine ou douzaine de livres de cuisine, dont un qui vient de ma grand-mère, avec les pages qui sont cornées.
C'est Geneviève Mathieu.
Je suis. C'est pas celui-là, mais il y a d'autres.
Les frères Coingros.
Je suis complètement hermétique au monde des influenceurs, que ce soit pour la cuisine d'ailleurs ou pour autre chose. Ce monde-là n'est pas encore passé par moi. Après, je n'ai pas subi une séance de conversion chez Estelle Denis comme toi tu as pu subir. Mais ça va.
Après, c'est souvent des vrais, c'est des membres qui ont fait des écoles de cuisine.
Mais moi, un taboulé, je veux dire, et peut-être que je changerais
d'avis.
C'est
pas très compliqué le taboulé. Là,
fais-moi quelque chose de mieux.
Mais c'est vrai que ça donne des idées en fait.
J'arrive pas, mais je l'entends complètement et ça a l'air génial quand vous le racontez. Je n'arrive pas à m'y intéresser, je n'arrive pas à rentrer dans ce truc-là. Je suis assez recette classique. Toi, t'as beaucoup plus de créativité que moi. Moi, j'aime bien les bonnes recettes à l'ancienne.
Ah, mais t'as aussi des recettes à l'ancienne. Si tu suis Vincent Ferniaud, par exemple, qui était un journaliste culinaire, il fait un bœuf bourguignon. J'ai sa recette depuis 4 ans et je la refais chaque année. Peut-être qu'il est moins bon que le vôtre, mais en fait, du coup, ça évite. En fait, il y a les étapes. C'est-à-dire qu'en fait, vous suivez les étapes comme si vous étiez avec la personne, comme si elle vous guidait.
C'est
en fait.
Fou parce que sur les livres de recettes que j'ai, il y a les étapes aussi. C'est juste que c'est écrit.
C'est le même principe.
Et puis, il y a une
parfois, vous dites attendez, est-ce que c'est vraiment comme ci, comme ça? Tandis que quand vous voyez la personne faire la cuisine, vous dites ah, d'accord, il met ça comme ça, ok.
Et sur Marmiton, il y a des vidéos aussi.
Mais c'est vrai. Mais oui, les Marmiton, j'ai pas confiance, je sais pas qui c'est.
Mais pour les quelques
c'est comme si un ami ou une amie te montrait une recette.
Exactement. Mais moi, j'avoue que j'aime bien être avec mes bouquins. Moi, j'aime bien ouvrir le bouquin. Je retrouve la tâche de pâte à tarte ou de je sais pas quoi de la dernière voiture. Ça me fait marrer. Et voilà, et je les transmettrai. Moi, j'aime bien cette histoire-là. Donc, totalement étanche, quoi.
Ah, mais moi, j'envoie mes vidéos. Pierre Rondeau, vous êtes moins cuisine. Pierre, est-ce que justement, la facilité pour vous, Pierre, c'est d'aller suivre des recettes que vous trouvez sur Instagram?
Je suis moins cuisine, mais figurez-vous que j'aime bien regarder les gens faire de la cuisine sans forcément derrière reproduire les recettes.
Et tu manges.
Y en a un que j'adore, par exemple, c'est François-Régis Gaudry.
Ah ben je l'adore.
C'est le meilleur de tous, c'est le GOAT. C'est vraiment le meilleur.
C'est pas ta life, c'est un délice.
Et lui, c'est vrai qu'il fait souvent sur Instagram, sur les réseaux, des recettes. J'en ai jamais reproduit une, mais j'aime bien le regarder. J'aime bien aller voir son émission, très très bon, et j'aime bien le voir tester des restaurants. Donc il fait de l'influence, il est aussi journaliste culinaire, mais il fait aussi de l'influence sur les réseaux. Et c'est vrai que j'adore juste le voir aller déguster des plats au restaurant, le voir dans ses cuisines faire des recettes. Juste le plaisir, juste des yeux. Je vais pas les reproduire parce que même je suis même parfois impressionné par la recette et je me dis que j'en serais incapable et je pourrais pas faire aussi bien. Mais j'aime bien voir effectivement sur Instagram, peut-être que mon algorithme a influencé la chose, mais j'aime bien voir des gens préparer des plats assez grandiloquents juste par plaisir des yeux. Moi derrière, je vais me faire un plat de pâtes, mais j'aurais vu quelqu'un, un chef faire sur les réseaux.
Mais vous avez des influenceurs pâtes, Pierre, alors, enfin.
Sachant que c'est intéressant ce qu'il dit parce que moi je suis très fan de Top Chef et dans la dernière saison, ils ont fait venir des influenceurs. C'était une catégorie d'influenceurs qui avait l'air très connue, influenceurs et influenceuses, qui ont déterminé, c'était sur les phases finales, au pré-final, qui ont déterminé qui allait être éliminé, gagner, etc. Et d'un seul coup, je dis, oui, la société est vraiment en train de changer, je suis en train de passer à côté, il n'y a pas de doute. Mais j'entends ce côté plaisir de faire et plaisir de regarder.
Mmh. Alors, il y a un influenceur, on appelle ça comme ça, mais en tout cas un cuisinier qui a énormément de succès sur Instagram. Je vous invite à aller voir ses recettes, il est avec nous, il s'appelle Théo Lignani. 1 400 000 followers sur Instagram, des recettes absolument géniales. Il a sorti un livre d'ailleurs, Ma cuisine sans complexe, aux éditions La Martinière, et il est avec nous. Bonjour Théo.
Bonjour.
Et merci beaucoup d'être avec nous. Je le disais, hein, 1 400 000 followers, dont moi. voilà, Théo, moi je fais vos recettes assez régulièrement. C'est des recettes assez simples. Tout d'abord, qu'est-ce qui vous a donné envie d'aller sur les réseaux sociaux? Pourquoi ne pas avoir monté votre restaurant, par exemple, ou fait Top Chef?
Moi, c'est un peu un concours de circonstances, pour le coup. J'étais chef à domicile dans le sud de la France, où j'habite, à côté de Nice.
D'accord.
Et en fait, bah, j'étais un peu à la recherche de clientèle. J'avoue, je faisais pas grand-chose de mes journées. Et pour me donner un peu une dynamique de travail, refaire des choses, m'amuser à créer des recettes, eh ben, je faisais des repas, je faisais des plats, et je les partageais sur les réseaux sociaux. Au début, de manière totalement, vraiment sans ambition, sans prétention. Et en fait, avec le temps, ça a pris, et je m'y suis pris au jeu, en fait.
Alors là, on est en train de voir votre recette de coquillettes au chorizo que j'hésite à faire ce soir. J'hésite entre celle-là et votre carpaccio que vous venez de mettre en ligne.
Moment,
oui, voilà, oui, exactement. Enfin, c'est pas mal.
Je vais préciser qu'on a plusieurs messages sur WhatsApp, Théo, d'auditeurs qui sont en train de faire votre carpaccio en nous écoutant.
Ah ben voilà, le carpaccio qui vient de sortir. Ah ben moi, j'ai envie de le faire ce soir devant le match pour le coup. Théo Lignani, c'est quoi la recette, votre recette qui a le plus cartonné? Je sais que vous avez du succès avec des recettes que, notamment pour étudiants, genre des recettes de malbouffe, entre guillemets. Par exemple, vous avez un kebab maison qui a fait un carton. Vous faites aussi du poulet frit. Quelles sont les recettes qui cartonnent le plus?
Pour le coup, c'est vraiment des recettes simples que les gens vont trouver belles et qui vont leur donner envie de manger directement. Et qui, pour le coup, s'inscrivent bien dans des trucs un petit peu de saison, des trends un petit peu... moi, pour le coup, voilà, le kebab... Kebab maison, c'est un truc qui marche super fort. Les gens, ils adorent faire ça, de la viande marinée. Ils mettent ça dans un pain, dans une galette pita. Ils le garnissent avec ce qu'ils veulent, c'est super. Après, d'autres recettes, par exemple, pour une recette qui a cartonné, c'est les pâtes au pesto de pistache et burrata. Ça, pour le coup, c'est gourmand, ça se fait facilement. C'est un peu original. On voit que ça vient de l'Italie, c'est frais. C'est vraiment un classique incontournable, pour le coup.
Et qu'est-ce que vous diriez à Emmanuel Dancourt qui est toujours avec ses vieux livres de cuisine et qui n'arrive pas encore à passer à Internet?
Mais moi, je suis aussi dans ce truc-là. C'est-à-dire que c'est ça qui est drôle. C'est que moi, il y a des gens de 10 à 80 ans qui me suivent quand j'ai fait des dédicaces pour mon livre. J'ai été étonné de voir des petites mamies de 75 ans, 80 ans qui viennent et qui se ramènent avec le livre. Donc elles sont contentes d'avoir à la fois le support du livre et à la fois pouvoir suivre les recettes sur les réseaux sociaux, parce que ben il y a la voix, il y a l'intonation, il y a le rythme, il y a le visuel. Donc en fait, avoir les deux plateformes, c'est pas si bête aussi, quoi.
Et dernière question, Théo Lignani, moi quand j'invite des gens à dîner le week-end, ça me prend une semaine pour réfléchir au plat que je vais faire, ça me prend deux jours pour réfléchir aux courses et une journée pour faire un plat. Comment vous faites pour diffuser des plats extrêmement régulièrement, c'est-à-dire au moins un plat par jour ou un plat tous les deux jours? Comment vous trouvez le temps et l'inspiration?
Bah là, c'est vraiment en fait devenu mon travail à plein temps, quoi. Donc le gros du travail, c'est ça, c'est la recherche de nouveautés. Moi, ce que j'adore faire, c'est me balader dans les marchés, me balader dans les supermarchés pour essayer de trouver des inspirations. Je vais chez mon boucher, chez mon poissonnier, je vois ce qui arrive, je fais en fonction. Et puis après, ben c'est juste en fait l'inspiration. Moi, ma vie, c'est la cuisine, ma passion, c'est la cuisine. Je suis tout le temps en train d'essayer de créer des recettes et en train d'imaginer des choses dans ma tête ou dans ma cuisine. C'est vraiment mon passe-temps, en fait.
Bah écoutez, génial. Merci d'avoir été avec nous, Théo Lignani, chef Théo Lignani. C'est sur Instagram, 1 400 000 followers. Juste, tiens, c'est quoi le meilleur menu ce soir devant le foot, Théo?
Moi, alors le carpaccio, ça passe bien, ou un tartare, pour ceux qui aiment bien la viande. Si vous aimez pas la viande, moi j'avoue que là, la petite salade, j'aime bien la faire en ce moment. Ou j'ai une autre petite chose que j'aime bien, c'est je fais des roulés de wrap. Donc je prends des galettes wrap et je fais des roulés avec ça. Et là, on peut mettre soit de la viande, soit du végé uniquement, soit du saumon fumé. On met ce qu'on veut dans la tartine, on la roule, cette petite galette-là, on la pique sur une brochette. Là, on peut soit la faire cuire, soit la manger crue. Et devant, en apéro, en petit picking comme ça, c'est incroyable.
Bah écoutez, merci beaucoup Théo pour tous ces conseils. Je pense que vous avez converti Emmanuel Dancourt, je la vois, elle est en train de s'abonner sur Instagram. Merci beaucoup. Théo, on a Valérie également qui nous appelle du Gard. Valérie, elle est ex-chef cuisinier. Bonjour Valérie.
Bonjour Estelle.
Valérie, est-ce que vous êtes sur les réseaux sociaux vous aussi?
Absolument pas.
Ah, d'accord, vous n'avez pas franchi le cap.
Mon réseau social, c'est mon cerveau.
Ah vous, d'accord, bah écoutez, très bien. Et Valérie, alors comme vous êtes ex-chef, j'imagine que
non,
vous n'avez pas besoin des
réseaux. Ça fait longtemps, hein.
Ah oui.
Bah j'ai 58 ans, mais bon, j'ai fait mon CAP cuisine à 16 ans. Mon rêve, c'est de devenir cuisinier dans la marine nationale. C'est ce que j'ai fait, mais il y a très longtemps. Après, j'ai été chef saucier, quoi. J'ai été voilà quoi.
Ah super. Mais est-ce que vous avez besoin d'inspiration, Valérie? Ah d'accord.
Non, vous voyez, la semaine dernière, j'ai acheté du cervelas. Vous savez ce que c'est, du cervelas?
Oui, bien sûr.
Pour faire une salade de pommes de terre, cervelas, et vous pouvez rigoler, mais il y en a qui ne savent pas. Hein.
D'accord.
Et c'est bête. Et là, il m'en restait. Ben, j'ai fait une fondue d'oignons avec de la tomate relevée et j'ai snacké mes tranches de cervelas et servi avec une purée montée à la crème et finie au beurre et de la crème et du gruyère râpé.
Voilà. Ouais, d'accord, mais parce que vous y connaissez, Valérie. C'est-à-dire qu'en fait, autour de cette table, il n'y en a pas un qui aurait, avec un reste de cerveau-là, eu l'idée l'idée de faire ça. Vous voyez ce que je veux dire?
Ben ouais, mais moi, je fais avec les restes de ce que j'ai, quoi. Je ne vais pas tous les jours en course. De toute façon, je n'ai pas les moyens. Donc, je fais avec ce que j'ai. Donc, vous voyez, ce soir, il me reste trois gambas que j'avais pris surgelées parce que c'est beaucoup moins cher. Et deux petits coquilles Saint-Jacques. Je vais faire un carpaccio.
Ah bah écoutez, super, hein, voilà. Donc vous n'avez pas besoin des réseaux sociaux, vous avez tout dans votre cerveau.
Non. Et puis quand j'ai des charlottes, eh ben, je fais une charlotte aux fraises.
Bah écoutez, génial, bah ça a l'air bon chez vous en tout cas, Valérie.
Je vous enverrai des photos si vous voulez.
Plaisir, Valérie, sur le WhatsApp 0612 424 424. On adore, merci beaucoup Valérie d'avoir été avec nous. Bah tiens, sur WhatsApp, qu'est-ce que ça donne, Charles?
Ça vous divise, hein, cette question des influenceurs quand même. Alors oui, j'ai Sofiane qui nous dit, bah moi j'adore regarder des recettes d'influenceurs sur Instagram, surtout pour les recettes rapides, faciles à faire, en moins de 30 minutes, c'est quand même très pratique. Kermit qui nous dit, le chef Théo que vous avez est top, il m'a attrapé avec sa recette de foie gras, nous raconte Kermit.
J'ai pas fait celle-là.
à tester. Longo qui nous dit, moi je fais confiance mais je suis souvent déçu. Là j'ai testé un gâteau au chocolat avec seulement 3 ingrédients, c'était dégoûtant, une belle arnaque. Et puis Julien nous dit, mais oui, l'autre fois il ne me restait que des biscottes et du beurre, heureusement qu'un influenceur m'a conseillé de faire des biscottes au beurre. Ça devient ridicule qu'on ait besoin d'Instagram et des influenceurs pour savoir cuisiner, nous écrit Julien.
Bah, et il y a même aujourd'hui tous les grands chefs cuisiniers qui font des recettes.
Sont sur les réseaux.
Bien sûr, voilà, sur Instagram et qui s'y mettent aussi. Il y a Éric Fréchon qui était le chef du Bristol, qui fait des recettes hyper simples et absolument géniales. Donc voilà, il y a Stéphanie Lequellec aussi qui fait des super recettes. Donc même les grands chefs aujourd'hui se mettent à Instagram.
Et les futurs chefs aussi, parce que par exemple, une école comme Ferrandi Paris maintenant donne des cours d'éloquence et des concours d'éloquence pour les cuisiniers qui doivent expliquer leurs recettes, et c'est pas évident. Donc voilà, trouver les bons mots pour que ce soit simple.
Et c'est bien de voir des jeunes qui se bougent, qui font des choses. Loulou Kitchen, elle a 31 ans, elle a des millions et des millions d'abonnés sur Instagram, et aujourd'hui voilà, il y a plein de gens qui la suivent et qui font ces recettes.
Alors en matière de cuisine, pour les recettes, pour les critiques gastro aussi, est-ce que vous faites confiance aux influenceurs? La réponse est clairement non, à 94%. Oui, en France on cuisine avec les recettes de sa grand-mère.
Voilà, comme Emmanuel,
changé grâce à nous, ça va.
Mais je le souhaite, je le souhaite. Allez, 14h22, c'est l'heure du tu préfères dans Estelle Midi.
RMC Estelle Midi, tu préfères.
On parle foot dans ce tu préfères, le match France-Suède ce soir 23h. Alors, vous préférez ce match le regarder seul ou avec des amis, Pierre Rondeau?
Alors, avec des amis connaisseurs ou seul, sans amis footix. Si je le regarde avec des amis à plusieurs, c'est ce que j'ai fait hier par exemple chez mon pote Alex qui est journaliste au Parisien, donc forcément compétent dans le domaine footballistique. Oui, je regarde et on peut débattre, discuter sur telle tactique, tel fait de jeu et autres. Mais il n'y a rien de plus insupportable que de regarder un match de foot avec des footix qui débarquent au bout tous les 4 ans, qui sortent du bois tous les 4 ans et qui découvrent la Coupe du Monde, mais qui n'ont jamais vu un match depuis 4 ans et qui vont te poser la question, c'est quoi le hors-jeu et le PSG, il joue quand? Est-ce que Messi, il joue pour les États-Unis parce qu'il joue à Miami? Voilà, ce genre de commentaires qu'on peut avoir pendant une Coupe du Monde. Donc tu le regardes soit tout seul, soit avec des gens qui connaissent le football.
C'est un peu snob ce que tu dis, mais j'y souscris à 100%.
Insupportable.
Emmanuel Dancourt.
Non, mais je suis assise à côté d'un ayatollah du foot, quoi.
Exactement.
Non, une personne normale.
Bah, moi, je suis cette personne-là. Ah là là. Tu vois, moi, j'aime bien, quand j'étais gamine, on regardait des matchs de foot ou de tennis avec mon père. Et effectivement, j'étais cette personne qui posait des questions, parce que naturellement, je ne m'intéresse pas au sport. Mais j'aime bien le fait de vivre tous sur le canapé ensemble et de me laisser happer par les connaisseurs et de me laisser happer par l'esprit de,
Fort Boyard,
du jeu.
Oh
non, mais là ça devient. Non, mais
c'est honteux.
C'est surplombant, quoi.
Honteux.
C'est surplombant. C'est. Voilà. Tu as changé, Pierre.
Il y a plein de gens qui comprennent Pierre, là.
Tu as beaucoup changé. Mais peut-être. Non. Peut-être. Mais si vous voulez embarquer les gens comme moi, c'est pas en étant snob comme vous l'êtes et en étant refermé sur vous comme vous l'êtes, si vous voulez embarquer, mais vous en avez rien à foutre, d'embarquer les gens comme moi, parce que ce qui vous intéresse, c'est votre petit plaisir et votre petit nombril foolistique, là. Franchement, non, mais franchement,
tu as raison aussi.
Honnêtement, embarquez-nous plutôt que nous ostraciser, oui. Quoi.
En fait, il y a des moments pour poser des questions. C'est ça le truc.
Non,
si. Charles, il est en train de dire
surtout sur le rugby.
Charles, c'est le dernier qui m'a envoyé des textos en me mettant c'est insupportable. Je regarde un match avec un mec qui n'y connaît rien et c'est insupportable. Ah. Charles, c'est vrai ou pas?
Comment il s'appelait?
C'est vrai. Alors, je vais vous dire. Je trouve que c'est insupportable. Je comprends Pierre sur des matchs de connaisseurs importants, etc. Mais la Coupe du Monde, c'est pour les footix. C'est fait pour ça. C'est le moment des footix. Emma, elle va pas venir t'embêter quand il y a PSG Lorient en Ligue 1 à 19h le vendredi.
C'est vrai.
Et là, elle va te laisser tranquille sur ton canapé. La Coupe du Monde, c'est fait pour ça. C'est pour rassembler. C'est le moment où de 7 à 77 ans, ou même plus, on est tous devant l'écran, tous ensemble. On supporte c'est pas du foot. C'est la France qu'on supporte ce soir.
Exactement.
C'est plus que du foot. C'est pas un match de 4-4-2 et tout. On s'en fiche.
En fait, disons qu'Emma, s'il y a une grosse occasion, c'est pas le monde. Il y a des moments pour poser des questions. Un petit temps mort et tout.
Attention.
S'il y a une grosse occasion, c'est vrai que c'est pas le moment.
Nous prenez pas pour des débilos non plus. Évidemment qu'on voit bien quand le moment, c'est pas le moment de poser une question. Après, très honnêtement, c'est pas sur le foot, moi, que je pose des questions. C'est sur le rugby où j'ai beaucoup plus de mal avec les règles, à comprendre les règles. C'est plutôt sur le rugby où là, je
patauge. Tu sais qu'à la mi-temps, il change de côté. Il tire à droite et après.
Vous êtes très surplombant. Non, mais vous êtes très surplombant, les mecs.
Vous êtes méprisant.
C'est humiliant.
Je plaisante. Alors moi, plutôt avec les copains, d'ailleurs, il y a Arthur qui nous écoute et qui m'a demandé tout à l'heure, alors ce soir on se le fait à la maison.
Vous avez un ami qui s'appelle Arthur ?
Mais oui.
Bah, je le connais pas.
Eh ben voilà. Bah,
Arthur, pourtant, il dit que c'est bien.
On a encore le droit d'avoir des amis qu'Estelle ne connaît pas sur ce plateau.
Pourtant,
on
les écoute tous les jours. C'est incroyable. Bah, j'en ai jamais entendu parler.
J'espère qu'il a un air fryer. Hein, parce que sinon.
Je ne comprends pas. Bon, bref, il nous écoute. Là, il est en train de rentrer chez nous, près d'Aix-en-Provence. Bon,
bienvenue.
Bref. Et donc, il m'a demandé est-ce qu'on se fait ça ce soir et tout. Alors, le problème, c'est que 23h, c'est pas.
Ah bah oui. C'est. Moi, j'invite personne à 23h.
Avec moi, avec mes enfants, etc. Il y en a peut-être un qui va dormir à la mi-temps. Donc, bon. Ça va être un peu compliqué.
Il n'est pas le bienvenu, en fait, Arthur.
Mais je crois qu'on va quand même faire ça. Alors, si, non, c'est Arthur qui proposait de faire ça chez lui. Alors, Arthur, je t'appelle juste après l'émission. Mais non, mais pour dire que moi, ce que j'aime quand on est entre potes, c'est que quand il y a un but, on se lève tous, on se prend dans les bras, on se dit allez. Et voilà, il y a une ambiance stade reconstituée devant l'écran.
C'est comme si vous me disiez, je regarde Teddy Riner au JO, mais uniquement avec des vrais connaisseurs de judo. La vérité, c'est que personne n'y comprend rien autour de ce plateau aux règles et qu'on est tous heureux en même temps.
Quand l'arbitre lève la main,
c'est une émotion partagée, c'est ça qui est beau dans une Coupe du Monde.
Puisqu'on a une vraie thématique Arthur, il y a un Arthur assez célèbre dans cette émission qui est mon petit dernier, dont j'ai pu beaucoup parler les années précédentes. Ce soir, on va tous regarder, ça va être marrant. Or qu'Arthur, il ne connaît rien au foot non plus, mais ça va être rigolo. Et c'est mon mec qui va nous expliquer les 2-3 trucs qu'on ne comprendra pas. Mais ce qu'on vit, c'est l'émotion, c'est le moment. Puis les buts, on les comprend, rassurez-vous.
C'est la liesse, c'est ça.
Ne t'inquiète pas, Pierre, la Ligue 1 reviendra. Tu auras des matchs austères le week-end à regarder.
C'est chiant. Des choses qui se passent rien.
Tu regardes à huis clos, quoi, en fait.
Totalement.
Alors que nous, on regarde
les stats plein dans la après, franchement, tu peux avoir des émotions en regardant un match tout seul, quoi. Enfin, pardon, excusez-moi. Hein.
Mais t'es pas ridicule quand tu te lèves du canapé.
Quand ça marque, t'as envie de prendre quelqu'un dans tes
bras. Le plaisir, ça se partage.
Oui, mais.
Et la déception aussi, d'ailleurs. On est content quand le PSG prend une remontada. Vaut mieux pas être seul devant sa télé. Je peux vous dire
que ce jour-là, je suis avec des gens qui n'aimaient pas le foot. J'avais qu'une envie, c'est vraiment. Heureusement que je suis tout le temps tout seul pendant les matchs.
Qui vous prend dans les bras pour vous consoler quand ça se passe mal?
Non, non, parce que t'as aussi des trucs. Moi, je me rappelle de France-Bulgarie, si tu veux, où je m'en suis jamais remise. Et plein de gens qui en 93. Et la personne qui vient là et qui dit, bah, tu vois, je te l'avais dit. Mais c'est pas possible.
Répète,
en fait.
Ça va, c'est que du football.
Oui, voilà, exactement. Ou, oh, hey, tu vas t'en remettre. Non, mais en fait, je trouve que voilà, il y a des émotions. Il faut les vivre avec des gens vraiment qu'on connaît bien.
Oui.
Ou seul, en fait.
C'est un plaisir solitaire, on l'a bien compris.
Ça peut l'être, oui.
Je parlais du nombrisme. Du nombril, j'aurais dû.
Non, après, chacun le vit comme il veut.
Et quand on vous pose la question sur nos réseaux, la soirée foot, est-ce que c'est tout seul ou entre amis? Vous avez répondu tout seul.
Non.
À 58%.
Bah,
que des pires randos.
Je comprends, ouais.
L'auditeur d'RMC.
Bah oui. Et on les aime, ces auditeurs.
Qui nous écoutent seuls, d'ailleurs.
Dans un instant, alors là, restez bien avec nous, vous avez peut-être ce problème. Votre logement est toujours aussi chaud malgré la fin de la canicule. Et bien, on va vous donner des astuces pour réussir, enfin, même en ouvrant les fenêtres, etc., à réussir à avoir un logement plus frais. Ce sera avec Charlotte Méritant, ce sera dans un instant. À tout de suite.
RMC, midi 15h.
Estelle Midi.
RMC, midi 15h. Estelle Midi.
Estelle Denis.
14h32, vous êtes dans Estelle Midi sur RMC, RMC Story. Et tout de suite, c'est RMC Conso avec Charlotte Méritant.
Estelle Midi.
RMC Conso.
Alors Charlotte, il y a beaucoup d'auditeurs et de téléspectateurs qui vous attendent comme le messie aujourd'hui, parce que je l'ai dit, vous allez nous aider à faire baisser la température dans nos logements. C'est absolument incompréhensible, mais il y a pour plein de gens, aujourd'hui, les logements, malgré la fin de la canicule, sont toujours chauds. On a beau ouvrir les fenêtres, aérer, mais c'est toujours chaud.
Si vous n'arrivez pas à faire baisser la température chez vous, je pourrais parier que vous habitez probablement soit dans un immeuble ou une maison en pierre, soit en béton.
Oui.
Ce sont en gros les matériaux de fabrication qui stockent le plus longtemps la chaleur. Alors il va falloir s'armer de patience parce que ça peut prendre 4 jours pour revenir à une température normale. Donc là, on est à J+2. Ouais, oui. Et c'est exactement le problème.
Super.
Exactement.
Mais pourtant, les vieilles maisons en pierre sont réputées plus fraîches l'été. Tout le monde dit ça, si vous avez des gros murs, une maison ancienne.
Oui, c'est pas une idée reçue, hein, c'est vrai. Mais justement, parce que comme elles stockent lentement la chaleur, elles vont mettre plus de temps à se réchauffer. C'est ce qu'on appelle l'inertie thermique, la capacité d'un matériau à stocker puis à restituer la chaleur. Et généralement, une forte inertie thermique, c'est plutôt un atout, comme vous le voyez en début de canicule avec ces maisons plus fraîches. Mais en fin de période de canicule, comme toute cette chaleur stockée, il va bien falloir à un moment donné la restituer. Cette inertie thermique, elle devient un problème.
Mais ça veut dire qu'en fait, une maison en bois va se rafraîchir plus vite.
Oui, une maison à ossature bois ou parpaing, par exemple, ce sont des matériaux plus légers, elles vont généralement retrouver une température, leur température habituelle à l'intérieur, en une seule journée, deux maximum. La contrepartie, c'est qu'elle va aussi monter en température beaucoup plus vite, c'est-à-dire dès les premiers jours de canicule, vous allez avoir 30-35 degrés dans ces maisons-là. Et c'est pour ça que l'idéal, c'est d'ajouter une isolation qui va combler les failles des matériaux de construction. Par exemple, sur une maison en bois, vous pouvez ajouter un isolant dense comme la fibre de bois, ça rajoute de l'inertie thermique, ça va permettre d'éviter les échanges de chaleur entre extérieur et intérieur. Et on évite en revanche les isolants type polystyrène qui sont certes bien en hiver, mais les performances pour l'été sont vraiment pas top sur ce type d'isolant.
Et pour ceux qui habitent en ville, est-ce qu'il y a d'autres facteurs qui jouent sur la capacité d'un immeuble à se rafraîchir?
Oui, son environnement. Si vous êtes dans une rue végétalisée, vous remarquerez peut-être que votre immeuble va rafraîchir un petit peu plus vite que si c'est très bétonné autour de chez vous. Si vous êtes en maison, d'ailleurs, petit conseil, végétalisez au maximum votre extérieur, là, en amont de la prochaine canicule, parce que ça joue vraiment sur la capacité de la maison à rafraîchir. Et puis, évidemment, il y a l'orientation qui compte. Les façades exposées à l'est, au sud ou à l'ouest reçoivent beaucoup d'ensoleillement. Donc d'ailleurs, c'est bien d'en avoir conscience pour agir. Si vous êtes exposé à l'est, vous fermez toute la matinée. Si vous êtes à l'ouest, on ferme tout l'après-midi. Et si on est au sud, on ferme toute la journée. Et à la limite, on ferme toute la journée, tout le temps, quand les températures sont au maximum. Mais bon, ça, c'est bon à savoir. Votre comportement va fortement jouer sur la capacité de votre logement à rafraîchir.
Et un conseil pour rafraîchir son logement beaucoup plus vite?
La seule chose à faire, c'est de ventiler au maximum. Donc ça va de soi, mais ouvrir dès que les températures sont plus fraîches dehors que dedans. Est-ce que vous connaissez l'astuce du ventilateur tourné vers l'extérieur?
Ouais. C'est ce que vous nous avez dit, mais pour rafraîchir son logement.
Alors, détail sur cette astuce. Vous mettez donc votre ventilateur face à une fenêtre ouverte, à 1 mètre, 1,50 mètre environ. Il y a eu des tests qui ont été faits, c'est la distance optimale pour que cette astuce fonctionne. Et idéalement, vous avez aussi une deuxième fenêtre ouverte. Ça va faire l'effet d'un courant d'air, même si votre appartement n'est pas traversant, parce que ça va améliorer le flux d'air et chasser l'air chaud de l'intérieur vers l'extérieur et faire entrer l'air frais de l'extérieur vers l'intérieur beaucoup plus vite. Je l'ai testé la nuit dernière et celle d'avant et je peux vous assurer que ça fonctionne.
Ah, génial.
Et puis bien sûr, on continue tous les gestes qu'on a mis en place pendant la canicule. C'est pas parce que la canicule est terminée pour le moment qu'il faut recommencer à générer du chaud, par exemple en rallumant tous ses appareils électroniques. C'est pas maintenant qu'il faut rallumer son four, même si vous parliez de cuisine et que ça donne très envie de cuisiner. Éventuellement un air fryer, mais même ça, hein, vous savez que ça va créer quand même de la chaleur. Hein. Et pareil, le sèche-linge,
ça n'a rien à voir.
Four, sèche-linge, même poêle de cuisson, même air fryer.
Sèche-linge, ouais, sèche-linge quand même.
L'avantage, c'est qu'il n'y a pas besoin.
Il y a pas de poêle quand même, on a le droit de cuisiner.
Mais après, ça va dégager de la vapeur, donc de la chaleur en
la
plus.
Quoi,
mais... manger des crudités.
Oui, aux heures les plus fraîches.
Moi, j'en ai marre.
Et voilà,
les salades, là, c'est
Les crudités, c'est la vie.
Oui, bah, enfin, moi, ça fait trois semaines qu'on mange des crudités. Je peux plus, là. J'ai envie de gras, de viande, d'un truc qui colle au corps.
Oui, voyez, je comprends. J'ai pas d'astuce pour ça. Mais allez au restaurant.
Oui, ah oui, tiens.
Non, on ne branche pas l'appareil à raclette. Pas tout de suite, Estelle.
Non,
on se retient.
Merci beaucoup, Charlotte. On parle de quoi demain ?
Demain, je vous parlerai d'une arnaque. En ce moment, vous savez que tout le monde est à la recherche d'un climatiseur. Tous les magasins sont en rupture de stock. Sur Internet, il y a des petits malins qui ont créé des sites Internet justement pour vous vendre ce type d'appareil. Ce sont des arnaques. Je vous apprendrai comment les détecter.
Ah bah, wow. Merci beaucoup. Charlotte Mériton, tous les jours, 14h30, dans Estelle Midi. Dans un instant, les immanquables de Charles. Gros coup de gueule de Pierre Rondeau contre la francisation des termes anglais au basket.
Ah oui,
okay. Ah bah oui. Allez. On va vous dire comment on dit quoi. Tiens, money time.
Ah non, on dit plus money time d'après le ministère de la Culture. On parle des minutes en or.
Ah bon, oui, bah écoutez,
on dit plus basket, on dit panier.
Pierre Rondeau va dézinguer le ministre de la Culture dans un instant. Dans Estelle Midi, à tout de suite.
RMC, midi 15h.
Estelle Midi. RMC, midi 15h. Estelle Midi.
Estelle Denis.
14h42, vous êtes sur RMC, RMC Story, dans Estelle Midi. Et tout de suite, voici les immanquables de Charles.
RMC, Estelle Midi.
Les immanquables.
Et Charles, on démarre tout de suite avec les mots du jour.
Ce sont ceux du vocabulaire du basketball. Le ministère de la Culture vient de publier très officiellement une liste de recommandations pour franciser 22 termes du basket. Objectif, limiter l'invasion des anglicismes dans ce sport. Alors par exemple, selon les recommandations, le spectaculaire alley-oop, c'est-à-dire la passe lobée, deviendrait un alley-hop en bon français. Oh, le buzzer beater, c'est-à-dire le tir à la dernière seconde, deviendrait le panier à la sirène. Quant au money time, il serait désormais question de minutes en or. Le trash talking deviendrait de la provocation verbale. Et on ne parlerait plus évidemment du All-Star Game, mais du match des étoiles.
Pierre Rondeau.
C'est gênant.
Ah voilà.
Ah non, c'est gênant. Mais là, on se demande vraiment. Rendez-vous compte que je vais passer sur un discours pujadiste, mais rendez-vous compte qu'on paye des impôts et qu'on finance un budget, le budget du ministère de la Culture, qui devrait travailler pour l'essor et la puissance de la culture française. Et il y a des gens qui sont dans un bureau, on réfléchit, on fait du brainstorming, mon Dieu, un anglicisme. On réfléchit sur, voilà, il faut franciser les termes du basketball. Mm-hmm. Donc, déjà, changeons le titre du sport. Le basket ballon. Le terrain
panier,
ballon.
Le panier ballon.
On va jouer au panier ballon. Un sport qui est américain. Donc, de fait, un sport américain créé par les Américains, bah, il est en anglais. On a créé le tennis. Le tennis, il y a encore des pays qui emploient des termes français. Les 40-30, 15-40, c'est aussi employé dans les tournois étrangers en français, parce que le tennis est un sport français, là le basket est un sport américain, donc il y a des termes américains.
Est-ce qu'au foot il faudrait tirer un corner ou un
coup de pied de coin,
et le foot pareil, le pied,
et le milieu de la danse classique. De la danse classique utilise que du vocabulaire français partout dans le monde,
parce que le musée de la danse classique, ça a une origine franco-française. Voilà. Donc on est pour défendre non pas la culture française ou la langue française, on est pour défendre le patrimoine culturel.
Alors,
sportif.
Attention, je vais défendre le ministère de la Culture, accrochez-vous, mais ce sont des gens, des commissions, etc., chargé aussi d'une part de défendre la langue française, de faire en sorte qu'on parle le plus français possible dans l'espace public. On a souvent ces débats sur les French Days, les Black Friday, etc. L'autre argument qu'il donne, c'est ça peut aussi aider les non-initiés à ce sport, à s'y mettre. Pas parfois tous les anglicismes, quand on ne comprend rien.
Imagine,
ça
imagine le gamin de 14 ans. Non, j'ai pas rentré sur un terrain de basket parce que je sais pas parler anglais.
Bah non, mais non, pour les non-initiés, j'ai pas tenté. Qui découvrir un sport à la télé, si on leur parle que de money time, de all-star, de buzzer beater.
Mais ça va.
Le jargon, parfois,
dit en français, je vais le comprendre. Genre, le hors-jeu, je vais savoir ce que c'est parce que c'est dit en français.
Oui, si tu regardes ta télé et qu'on te dit il est offside, tu comprends rien.
Mais attendez, là, on vraiment prend les gens pour des jambons. pardon de le dire, mais là, à ce niveau-là, on a vraiment des gens qui, en commission au sein du ministère, se sont dit, tiens,
mais pour ils sont sauver, dans leur rôle, Pierre.
Dans leur rôle, non. Déjà, un, le rôle, l'institution qui défend la langue française, c'est l'Académie française. Ensuite, deuxièmement, la langue française est une langue vivante qui prend de toutes les migrations et qui s'inspire de toutes les cultures.
Vous n'allez pas passer vos vacances ensemble, tous les deux, là?
Non, mais d'abord, il ne sait pas ce que c'est que du cerveau-là. Donc, déjà, j'ai découvert ça tout à l'heure. Déjà, il y a une rupture entre Pierre et moi.
Il y a plein de choses à apprendre.
Oui, mais toi, tu ne sais pas ce que c'est qu'un allez hop. Donc,
et je ne sais pas non plus.
Allez hop.
Exactement.
Vous avez tout intérêt à partir en vacances ensemble.
Mais en fait, ça fait allez hop. Mais il a raison. La viande française. Oh là là, la langue française. Il est temps que cette émission se termine. La langue française, elle est faite de toutes les migrations. Tu as totalement raison. Et on intègre du vocabulaire. Et notre vocabulaire français, il s'exporte aussi. Après, honnêtement, au ministère de la Culture, je trouve qu'ils sont dans leur rôle.
Oui, voilà. Ils sont dans leur rôle. Mais alors moi, je suis contre les anglicismes et je suis pour la défense de la langue française. Mais là, en effet, je reviens aux origines du sport. De la même façon qu'on dit handball et pas handball, parce que ce ne sont allemand. Pas les mêmes encore origines. Allemand. Donc voilà, il faut respecter ça. Et c'est ce qui fait. Pourquoi est-ce que George Eddy, il a ce succès.
On peut arrêter de parler anglais, là, c'est bon.
Ouais. Les matchs sur
Canal+. Parce qu'il parle avec son accent.
Ah oui, reste comme ça.
Voilà. J'arrête là.
Okay, mais ça, Jean-Philippe.
Mais parce que ça fait partie de ce qu'on va regarder quand on va regarder un match notamment
oui,
de NBA.
Un sport américain.
Alors, quand on regarde peut-être le championnat français, mais bon.
On regarde beaucoup moins.
Mais quand on regarde
WNB,
le buzzer. Mais tout le monde parle d'un buzzer dans les jeux français et même sur France Télévisions. On parle de main sur le buzzer. Donc c'est rentré déjà dans la langue française.
On va passer à l'amende du jour.
150 euros pour avoir transporté une télé dans le métro. C'est le Parisien qui raconte l'histoire du jeune Mathieu, 27 ans, qui est allé acheter une télé dans un magasin d'électroménager avec un copain. Il la transporte en métro, mais dans les couloirs, il est stoppé par des contrôleurs de la RATP qui l'ont immédiatement verbalisé. 150 euros d'amende qui se sont transformés en 200 euros puisque j'ai refusé de payer immédiatement, dit-il. J'ai vite compris que c'était inutile de discuter avec les contrôleurs. Motif de l'amende, objet dangereux ou incommodant dans les couloirs du métro. Visiblement, selon les règles de la RATP, sont interdits à bord les paquets, sacs ou bagages qu'on ne peut porter seul et qui pourraient gêner les autres voyageurs et leur circulation.
Ça fait quand même beaucoup, 150 euros d'amende, Emmanuel Dancourt.
Je trouve que l'amende, elle est sévère, qu'on aurait peut-être pu lui mettre un avertissement, lui faire une amende à 30 euros, histoire de marquer le coup. Mais surtout, moi, j'ai découvert, en fait, le sujet. Je savais pas qu'on n'avait pas le droit de transporter des choses dans le métro. Et est-ce que ça manquerait pas un petit peu dans les couloirs du métro et aux stations d'un tout petit peu de pédagogie avec de l'affichage en disant, ils savent très bien faire ça pour d'autres choses, pour le racket, notamment, enfin, pas le racket, le fait de...
Le pickpocket.
Les pickpockets, notamment. Oui, ou le fait de pas payer son billet, etc. Ça manque un peu de pédagogie, parce que je pense qu'on est assez nombreux à découvrir le sujet et de dire bah voilà, dans le métro, les colis doivent faire telle taille et pas plus que ça. Et je ne savais pas qu'on pouvait pas emmener quelque chose qu'on ne peut pas porter soi-même.
Il y avait une jeune femme qui avait été verbalisée parce qu'elle portait une plante il y a quelques mois.
Il y a un an, elle avait une grosse plante verte dans les bras qu'elle ramenait. Elle avait été verbalisée et l'amende lui a été retirée ensuite.
T'imagines quand il y a du monde, des fois c'est blindé à certains horaires où il y a un coup de frein un petit peu puissant. La télé peut devenir dangereuse. Il y a des coins, il y a quelqu'un qui tombe dessus.
On ne va pas interdire les enfants dans le métro. Et voilà.
Vu la difficulté d'avoir une voiture, et notamment une voiture où on peut transporter une télé, c'est-à-dire une grosse voiture dans Paris, pourquoi ne pas dire, il y a moins de monde de 15 à 16 heures. À ce moment-là, il y a une tolérance.
Bien sûr, on va aller tous acheter une télé à 15h.
Eh ben, tu t'organises pour pouvoir profiter du.
C'est l'horaire
télé. Je peux vous donner la liste.
Dans le métro parisien.
Allez-y. Ah oui, donnez la liste.
Peut-être sanctionné, selon la RATP, le transport d'objets, de paquets, de sacs, de bagages qui pourraient être dangereux, gêner ou incommoder les autres voyageurs. La régie des transports qui liste plusieurs exemples. Une bouteille de gaz, c'est interdit. Un vélo déplié, c'est interdit. Ou tout type d'électroménager. Mais la RATP ne précise pas la taille de l'électroménager ou typiquement de la
air fryer dans le métro.
Un grille-pain ou air fryer, a priori je peux, j'imagine, mais
un frigo, peut-être pas,
voilà,
un frigo américain
dans le métro.
Mais ça me serait pas venu à l'esprit d'arriver avec une machine à laver dans le
frigo américain.
Bah, on sait jamais, vous déménagez.
Enfin, quand on voit les escaliers, il y a pas d'ascenseur dans le métro, c'est rare.
Il y a des ascenseurs quand même, et vous avez un diable, je sais pas, vous avez.
Bon, bien sûr, je vais aller transporter une machine à laver avec un diable dans le métro.
Si on peut économiser la livraison au passage, oui, pourquoi pas. Non, il faut pas le faire.
Vous prenez un Uber van, comme ça, vous pouvez mettre votre électroménager dedans.
C'est un autre budget que le Pass Navigo.
Pour un petit trajet, c'est moins cher qu'une livraison.
C'est vrai.
Les cartes du jour.
Ce sont les cartes routières papier.
qui font de la résistance. Mais oui, malgré une chute des ventes ces dernières décennies dues au numérique, il se vend encore 2 millions de cartes Michelin chaque année. Et une passion qui n'est pas réservée aux seniors. D'après une enquête menée par Michelin, 3/4 des personnes qui les achètent sont des actifs. 1/3 des acheteurs ont moins de 35 ans. La moitié a moins de 65 ans. Des adeptes de la carte papier chez les jeunes qui y trouvent à la fois une vue d'ensemble, déjà sur leur trajet, le plaisir de se débrouiller, la liberté de choisir la plus belle route plutôt que la plus rapide.
Et puis aussi, quand on fait de la randonnée, on n'a pas forcément du réseau. Alors, je sais que vous êtes adepte de la randonnée, Pierre. Est-ce que vous avez des cartes routières ?
Figurez-vous que même au-delà de la randonnée, je vais raconter ma vie, mais chez ma mère, dans les toilettes, c'est recouvert de cartes de la France.
Ah, j'adore.
Avec les routes, et je connais ma géographie française et les routes de France. Parce que je vais régulièrement.
Non, surtout, il va voir sa mère.
Et c'est vrai que j'ai une espèce de. Oui, c'est un attachement, une nostalgie vis-à-vis de ces cartes, où je connais le territoire français, je connais les routes françaises, je connais ma géographie française grâce aux toilettes de ma mère.
Dans les toilettes d'Estelle, ce sont les insultes qui sont au mur.
Ouais, c'est vrai. Ouais, non, mais
j'ai. Leur frayeur.
Non, mais pas du tout. Mais c'est parce que j'ai acheté une affiche et vous savez, vous faites des mots mêlés. Oui. Et vous devez trouver toutes les astuces qui sont. Toutes les insultes qui sont sur le tableau. Carte routière ou pas, Emmanuel?
J'aime beaucoup, moi. Alors aussi pour la randonnée, effectivement, mais j'aime bien, c'est ce que tu disais, Charles, le fait de déplier ta carte et de comprendre dans quoi tu es. J'utilise quand même beaucoup les applis, mais malgré tout,
sur Google
de
Maps,
choisir.
Tu peux dézoomer aussi.
Bien sûr, mais de voir l'intégralité d'être. Moi, j'aime le papier. Et de voir l'intégralité de ton trajet. Et effectivement, de choisir la petite route qui va être un petit peu plus sinueuse, un peu plus longue, mais qui va être bordée de châteaux ou d'une jolie rivière. Moi, j'aime bien ce truc à l'ancien.
Jean-Philippe Doux.
J'en ai une dépliée en ce moment sur ma table de salon parce que je vais animer une tournée de 30 dates dans le sud et j'ai ma grande carte IGN du sud pour voir quel va être le parcours de la tournée. J'ai mis des petits points sur les communes qu'on va traverser.
Mais pas de téléphone ?
Alors si, je l'ai fait au début par téléphone, mais en fait, on peut pas avoir 30 points sur un itinéraire.
Si vous tapez épinglé et vous épinglez.
Il y a une limite. On peut pas aller à 30, par exemple.
Je pense que ChatGPT peut
t'aider. Oui.
Ah oui, je l'ai pas celui-là. Non mais oui, il faudrait que je le fasse. Mais non, mais je trouve que voir sur une carte, c'est bien.
Oui. Voilà.
D'accord, bravo à vous, Jean-Philippe, cette modernité vous honore. Bon, on parle foot avec des experts, voilà, c'est arrivé.
Ah, c'est gentil ça. Ça me flatte.
Je dis quoi ?
Ouais, non, mais avec la Dream
avec
Team,
des
oui,
c'est vrai. Super.
Il y en a deux qui ont fait du rugby déjà. Oui. Bah, il y en a un qui c'est vrai qui a gagné la Ligue des Champions avec l'OM quand même. Bon, ouais, celui-là, c'est un expert de foot, mais bon. Voilà. Après, tu sais, dans le Moscato Show, on n'est pas toujours expert de
non,
foot.
Non, ça, je connais l'émission.
C'est pas forcément le principe.
Mais enfin, en tout cas, on en débat quand même.
On en débat. Alors, surtout que hier, l'Allemagne a été sortie par le Paraguay. Le Brésil est passé tout près face au Japon.
C'est la Coupe du Monde des surprises comme Roland Garros.
Est-ce que c'est un avertissement pour les Bleus ?
Ah, bah oui.
Parce que la Suède, c'est vraiment nul, sur le papier.
Sur le papier.
Mais cela dit, le Paraguay est vraiment nul. Tout court, ils ont battu l'Allemagne.
Non, mais la Suède, ils ont fait match nul contre le Japon, non ?
Ouais, mais ils ont pris une tôle contre les Pays-Bas.
Oui, mais d'accord.
Ils ont mis 5-1 à la Tunisie, pris 5-1 contre les Pays-Bas.
Le Japon, il menait 1-0 contre le Brésil. Bon, ça n'a pas duré.
Donc, c'est un avertissement ou pas ?
De toute façon, moi, là, à partir de maintenant, j'ai peur.
Oui.
Voilà,
Ah, c'est comme ça maintenant.
De toute façon, je me trompe sur tous mes pronos. Je vous avais dit, attention à l'Allemagne, ils seront là. Bon, là, ils n'ont pas été trop là.
Enfin,
ils
sont bien quand même. Ils sont ce qu'il nous a dit Mbappé il y a quelques années, arrêtez de vendre la peur.
Oui, mais c'est ça qu'on aime aussi dans une Coupe du Monde, c'est se faire peur.
Oui, mais nul doute que Didier Deschamps va leur rappeler les résultats de la veille, je pense, avant le match contre la Suède, et leur dire attention, il n'y a plus de petits matchs. Et attention au piège, comme face à la Suisse à l'Euro.
Et puis hier, il y a eu deux séances de pénalty, pénalty sur deux raté, en moyenne.
Oui, c'était fou ça.
Ça relance le débat, est-ce qu'il faut préparer les séances de
pénalty?
Deschamps, il dit non.
Non, il dit non, mais il le fait quand même.
Tu penses pas, hein?
Moi, tu rigoles.
C'est sûr qu'il les prépare. Je suis sûr.
Et en tout cas, vous avez toujours l'expert vidéo là qui vient, qui te montre, etc. Regarde,
il y a les gardiens, c'est certain, ils ont leurs petites fiches et tout. Les tireurs, pas forcément.
Et de toute façon, en vrai, les conditions sont tellement pas les mêmes à l'entraînement et après quand t'es en situation. Mais bon, tu vas quand même faire une petite séance de tir au but au cas où, quoi.
Et puis on a une question philosophique.
Ah.
Parce que nous, on aime bien un peu.
Bien sûr.
Avoir des
vidéos.
Ça fait plaisir. Est-ce qu'on a le droit de ne pas aimer les champions? Voilà. Est-ce qu'on a le droit de ne pas aimer le Stade Toulousain qui gagne tout mais qui énerve tout le monde?
Bien sûr.
C'est
comme Nadal, par exemple.
Comme Anctil.
Non, rien à voir. Mais non, pas du tout.
Tout le monde aime Nadal, enfin.
En cyclisme, on peut se dire que
Pogacar, il est n'importe
quoi. Est-ce que les gens aiment Pogacar?
Il énerve Pogacar.
Pogacar, enfin, il est assez aimé quand même.
Armstrong n'était pas.
Mais maintenant qu'il va battre Sexas, je ne sais pas s'il va être aussi aimé du public français.
Bon, le Super Moscato Show, Pierre Dorian, Vincent Moscato, toute la bande, c'est tout de suite. Et nous, on se retrouve demain, midi 15h, dans Estelle Midi. Salut à tous.